Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire.
Bonjour. La saison s'y prête et les circonstances aussi. La grande faucheuse nous hante. Drapée de lambeaux de brouillard, à la tombée de la nuit, elle nous guette. Elle tient aujourd'hui la plume de Zélina et de Bernard Quirini. Voici de Zélina, mortel anniversaire, et de Bernard Quirini, l'éternel retour et question d'équilibre.
Mortel anniversaire. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'ankou, ou peut-être pas. Moi, c'est ma grand-mère, Mam Goz, qui me raconte souvent des histoires à son propos. En Bretagne, l'ankou est le représentant de la mort. On dit qu'il vaut mieux ne pas croiser sa charrette sur la route, car l'ankou, vous ne le rencontrez qu'une seule fois dans votre vie. Et il est, d'ailleurs, dans votre vie, la dernière personne que vous rencontrez. On raconte que, la nuit, l'ankou parcourt le monde sur sa charrette aux roues cerclées de fer, qui grince dans l'obscurité comme un oiseau de mauvais augure. On raconte que l'ankou est plus grand que le plus grand des hommes, qu'il est drapé dans un long manteau noir et que son capuchon de ténèbres ne cache pas un visage humain, mais le crâne luisant et osseux d'un squelette. On raconte qu'il porte au-dessus de son épaule une faux, plus effilée qu'un croissant de lune, une faux capable de moissonner les âmes d'un simple éclat de sa lame au clair d'étoiles. On raconte encore que le cheval qui tire la charrette de l'ankou est plus noir que la plus noire des nuits, que ses yeux sont deux braises de l'enfer et que le soufre sort de ses naseaux à chacune de ses respirations. Sur la charrette, tirée par ce cheval infernal, à côté de l'ankou, on prétend qu'il y a un petit chat efflanqué, plus dangereux encore que la faux de son maître, car quand la lame laisse échapper une âme, c'est lui, le chat, qui court après et la rattrape de ses griffes acérées. Vous allez maintenant me demander comment je sais tout ça, moi, sur l'ankou, que personne de vivant n'a jamais rencontré. C'est bien simple. C'est Mam Goz qui m'a tout appris. Mam Goz, à ma connaissance, est la seule personne qui a croisé la route de l'ankou et qui a survécu pour le raconter. Mais ceci est une autre histoire. Et, matoué, ce n'est pas de cet épisode que je veux vous parler ce soir. Toujours selon Mam Goz, quand l'ankou n'est pas au boulot, quand il ne cueille pas les âmes des défunts du tranchant de sa faux, l'ankou habite dans un sombre manoir au milieu d'un vallon perdu. Dans le manoir de l'ankou, il y a toute une aile réservée aux bougies. Quand vous poussez la porte de cette immense salle, pourtant dépourvue de fenêtres, vous êtes ébloui par les multiples flammes qui brillent comme autant d'étoiles dans la nuit. Il y a là des bougies de toutes sortes, de longs cierges à peine consumés, de petites veilleuses presque éteintes, des chandelles à moitié brûlées, et d'autres dont la mèche vient juste d'être noyée dans un reste de cire fondue. Chaque bougie Vous le sauriez si votre grand-mère à vous aussi s'appelait Mame Gauze. Chaque bougie, voyez-vous, représente la vie d'une personne de ce monde. Quand la flamme s'éteint, la personne meurt, tout simplement. Dans le manoir de Lankou, il y a aussi une gigantesque bibliothèque dont les livres s'écrivent tout seuls. Chaque livre raconte la biographie d'une personne de ce monde. Quand le point final s'inscrit en bas de la dernière page, la personne meurt, tout simplement. Dans le manoir de Lankou, il y a encore une salle d'ouvrage où des mains invisibles brodent une interminable tapisserie. Chaque fil représente la destinée d'une personne de ce monde. Et quand le fil se rompt, devinez ce qui se passe. La personne meurt, tout simplement. Mais dans le manoir de Lankou, il y a aussi une chambre où il peut se reposer, une cuisine où il peut se préparer à manger, un salon où il peut bouquiner, et même une salle de bain où il peut faire reluire ses bons vieux os. Tout autour de sa demeure s'étend un grand parc. Il y pousse des arbres biscornus, coiffés de feuilles perpétuellement mortes. Lankou cultive aussi des roses noires, des glaïeuls et des chrysanthèmes. On trouve également une splendide cabane en bois d'ébène, qui n'est autre que l'écurie du funeste destrier. La charrette est rangée derrière, et un peu plus loin, on trouve une remise remplie de plus de 300 faux, une pour chaque nuit de l'année, car Lankou est un grand paresseux. Il déteste affûter ses lames et ne s'y adonne qu'une fois l'an. Ainsi, il peut les faire toutes à la fois. Comme vous, comme moi, et comme Mame Gauze également, Lankou, une fois par an, fête son anniversaire. Cet anniversaire, voyez-vous, tombe exactement le premier soir de Samhain, le 31 octobre. En Bretagne, l'anniversaire de Lankou tombe le jour de Gwelanannon, la fête des défunts. À cette occasion, il invite toutes ses amies. Je dis bien toutes, car Lankou ne connaît que des femmes. Il y a la peste qui vient monter sur son cheval vert, drapé dans un manteau de même teinte, avec, sur l'épaule, un rat tout pelé et tout mité. Il y a la guerre qui arrive sur son cheval rouge, drapé d'une cape écarlate, avec, sur le pommeau de sa selle, un corbeau aux plumes de jais. Il y a la conquête, juchée sur son cheval blanc, drapé dans une pelisse blême, autour du col de laquelle s'entortille un monstrueux serpent. Il y a la famine qui caracole sur son cheval sombre et drapé dans une robe de satin noir, accompagné d'un loup au croc en couteau et dont l'écume mousse sur les babines. Il y a, enfin, l'apocalypse, qui elle vient toujours à pied. Car nul cheval, aussi démoniaque soit-il, ne serait assez costaud pour porter sur son dos cette dame-là, avec son lot de peine et de misère. L'apocalypse est drapé dans une étoffe de douleur et est suivi d'un cauchemar. Mais même Mame Gauze n'a pas su me dire à quoi il ressemblait. Car, comme vous le savez, il est impossible de décrire un cauchemar. Bref, une fois par an, Lankou reçoit dans son manoir toutes ses amies. Pendant que les squelettes tombent dans les os les uns des autres, embrassent leurs joues creuses de leurs bouches sans lèvres et se serrent les phalanges, les chevaux des morbides lurons hennissent de contentement. Les compagnons, eux, se toisent un peu avec méfiance. Le chat de Lankou lorgne le rat de la peste. Le loup de la famine se lèche les babines devant le corbeau de la guerre. Et le serpent de la conquête essaye de se faufiler entre les pattes de chacun, du venin sur l'ourlet de ses crochets. Heureusement, tout se finit toujours bien grâce au cauchemar de l'apocalypse qui arrive à raisonner tout le monde. De son côté, Lankou a dressé une table dans le jardin. Il l'a recouverte d'un charmant linceul, pas trop maculé de sang, car les lavandières de minuit l'ont proprement lavée et essorée la nuit précédente. Dessus est installé un couvert pour chaque convive et la table est joliment décorée de bouquets de fleurs poussiéreuses et de confettis noirs. La peste, la guerre, la conquête, la famine et l'apocalypse discutent avec leur hôte aussi gaiement qu'il est possible pour ces macabres personnages. Ils trinquent souvent. Mme Gauze a préféré ne pas me dire ce qu'ils boivent, mais je crois, ma douée, que ce n'est pas du cidre. Ils échangent des plaisanteries d'humour noir et se racontent leur dernier mauvais tour. Enfin, arrive le moment du gâteau. Le gâteau, c'est Lankou lui-même qui l'a confectionné. Comment ? Vous l'ignoriez ? Lankou est un fameux pâtissier. Pour son anniversaire, il prépare... Quoi donc ? Un cake au chocolat ? Raté. Une tarte aux pommes ? À côté. Des crêpes au beurre sucré ? Pas du tout. Vous ne le devinerez jamais. Lankou prépare un Queen Yaman. Ah, pardon, j'avais oublié que votre grand-mère ne s'appelle pas Mame Gauze. Le Queen Yaman, c'est un gâteau purement breton. Un peu de farine, beaucoup de sucre et un max de beurre. D'ailleurs, en breton, Queen Yaman signifie gâteau beurre. C'est tout dire. Il est fortement déconseillé de manger plus d'une part de ce dessert si on veut encore rentrer dans son pantalon le lendemain. Mais comme Lankou et ses invités sont tous des squelettes, et que, de toute façon, ils ne portent pas de pantalon, ils peuvent en manger autant qu'ils en veulent, sans craindre de prendre un seul gramme. Lankou, donc, est le champion du Queen Yaman. Mame Gauze prétend d'ailleurs que c'est elle qui lui a donné la recette, mais ceci est une autre histoire. Comme vous pouvez l'imaginer, il est impossible de mettre autant de bougies sur le gâteau que Lankou a d'années. En effet, il est aussi vieux que le monde lui-même et aucun gâteau ne serait assez gros pour porter toutes ses bougies. De sorte que Lankou se contente de mettre un nombre de chandelles aléatoires. Il recouvre tout le Queen Yaman et quand il n'a plus de place, il s'arrête là. Ça fait déjà un beau paquet de bougies, même si ça ne représente qu'une infime partie de son âge. Les flammes luisent sur le crâne lisse de Lankou sous son sombre capuchon. Tous les convives entonnent d'une voix grave et caverneuse le chant consacré en une telle occasion. Affreux anniversaire, affreux anniversaire, affreux anniversaire Lankou. Affreux anniversaire. Alors, Lankou gonfle sa poitrine sans poumons. Il n'oublie jamais de formuler un vœu. Puis il ouvre sa bouche sans lèvres et un long souffle fétide s'échappe du capuchon. Un long souffle fétide qui vient éteindre, d'un seul trait, les nombreuses bougies plantées sur le Queen Yaman. Tout le monde applaudit, on retire les bougies définitivement éteintes et on mange le gâteau jusqu'à la dernière miette. Oh, innombrables bougies soufflées par Lankou ce soir-là. Vous comprenez mieux, à présent, pourquoi on déplore tellement de décès durant la première nuit de Samhain, la nuit du 31 octobre. Alors, maintenant que vous savez, maintenant, ma douée, priez pour que Lankou, à son prochain anniversaire, ne plante pas votre bougie sur son Queen Yaman.
l'éternel retour. Il y a un an, ma femme Elisabeth a subitement voulu visiter l'Amérique. Cela m'a beaucoup surpris car elle n'a jamais été du genre à se lancer sur un coup de tête. C'était plutôt l'épouse prévoyante qui préparait tout minutieusement, achetait les billets d'avion des mois à l'avance, planifiait chaque étape du périple jusqu'aux souvenirs à rapporter. Or, cette fois, tout fut décidé du jour au lendemain, dans la précipitation la plus complète. La destination aussi me surprenait. L'Amérique, Elisabeth y était née, mais sa mère et elle s'étaient installées en France quand elle avait 5 ans, après la mort de son père, et elle n'avait jamais manifesté le désir d'y retourner. Nous sommes donc partis à l'improviste, sans savoir pour combien de temps. Nous avons passé une semaine à New York, puis nous sommes allés à Baltimore, à Washington et à Pittsburgh, avant de nous enfoncer dans les terres, la Virginie, le Kentucky, le Missouri, le Kansas, le Colorado. Nous avons pris de nombreux trains, loué 5 ou 6 voitures. Nous avons même fait un trajet en carriole à cheval du côté de Salem, Missouri. Elisabeth a pris plaisir à cette aventure, mais elle semblait en même temps soucieuse, tracassée. Elle jurait pourtant que tout allait bien. Je la laissais tout organiser. Elle arrêtait nos destinations d'après les guides touristiques. Après le Colorado, nous sommes descendus vers le Nouveau-Mexique, puis nous avons traversé l'Arizona et retour au Colorado en passant par l'Utah. Ce plan de route était absurde, mais cela ne me dérangeait pas. Nous aurions aussi bien pu rouler au hasard après avoir tourné en rond pendant des semaines. Nous aurions fini par toucher un océan, le Pacifique ou l'Atlantique, selon le sens du vent. Revenus au Colorado, nous nous sommes mis cependant à faire du surplace. Nous avons sillonné l'État pendant 2 semaines, Montrose, Aspen, Boulder, Greeley, Pueblo et bien sûr Denver, cité natale d'Elisabeth. Là, nous avons rendu la voiture de location et pris une chambre au Brown Palace. Nous avons parcouru méthodiquement la ville à pied, visité tous les musées, puis blasé, j'ai proposé à Elisabeth d'aller au Nevada ou en Californie. Mais elle préférait rester à Denver sans dire pourquoi. Elle semblait fatiguée. J'étais inquiet. Bientôt nos sorties se raréfièrent et raccourcirent. Nous n'arpentions plus que les abords de l'hôtel, suivant le même itinéraire. Nous échouions toujours dans le même square arboré, avec sa boutique de pancakes. Elisabeth adorait les pancakes. Nous choisissions toujours la même table, d'où elle regardait fixement l'immeuble d'en face en mangeant sa crêpe. Elle affirma finalement qu'elle y était née. « Je croyais que ta mère ne t'avait jamais parlé de cette époque, » m'étonnai-je. « C'est vrai. Alors comment connais-tu l'adresse ?»« Je ne la connais pas, mais je sais que c'est là. » Elle ajouta qu'une force l'avait poussée jusqu'ici et qu'elle était incapable de m'en dire plus. Nous revînmes le lendemain. Elisabeth insista pour que nous entrions dans l'immeuble. Par chance, la porte était ouverte. Nous montâmes au dernier étage. Elisabeth fonça vers l'appartement au bout du couloir et sonna. Il n'y avait personne. « C'est là, » dit-elle d'une voix assurée. Nous réessayâmes le lendemain sans succès. L'appartement était inhabité. Déçus, nous nous installâmes sur un banc du square à l'ombre des marronniers. C'est là, à quelques mètres du lieu supposé de sa naissance, que le cœur d'Elisabeth cessa de battre d'un coup. Elle avait 60 ans. Elisabeth compte parmi les premières victimes de ce phénomène universel qui, depuis quelques mois, pousse les gens à s'éteindre à l'endroit où ils sont nés. Sitôt qu'ils se sentent proches de la fin, une puissance irrésistible les met en marche, qui les rapproche de ce qu'on appelle le point zéro. Cette étrange épidémie nous fait envisager d'un œil tout neuf notre séjour sur Terre, ainsi que notre rapport à la géographie. La vie désormais s'apparente à une boucle. On est à un point A, on divague pendant quelques décennies, puis on revient à ce point inexorablement. Les savants, fascinés, n'ont pas d'explication. Les occultistes et les penseurs New Age prétendent que la Terre se charge à notre naissance d'énergie négative et qu'il faut rendre l'âme au même endroit pour l'en décharger. D'autres disent qu'un morceau de nous tombe au sol pendant la naissance et que l'enfant devenu vieux vient le récupérer avant de s'anéantir, etc., etc. Des files de vieillards se forment aux portes des maternités qui aménagent des mouroirs près des salles d'accouchement. Des octogénaires s'écroulent en pleine rue, là où s'élevait jadis l'immeuble où ils sont nés. Les parents prévoyants achètent des appartements non loin de la maternité, sachant qu'un jour leur progéniture sera contente d'avoir un pied à terre près de son point zéro. Les prix de l'immobilier dans le secteur des hôpitaux explosent. Les plus calculateurs font naître leurs enfants dans de beaux endroits en pensant à leur mort. On donne la vie sur la plage, à la montagne, dans les forêts, lieux idéaux pour naître et surtout pour s'éteindre. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu retourneras à la poussière. Sache aussi que ce ne sera pas n'importe où. La poussière retombe au point précis d'où elle vient. Sur ma pierre tombale, il sera dit que, né à X, j'y suis décédé. La seule chose que j'ignore, c'est quand. Cette connaissance anticipée de leur tombe stimule l'envie de courir le monde. Demeurer à proximité de son point zéro, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On peut mourir à tout moment. Alors que si j'habite à l'autre bout de la planète, je suis tranquille. Ma mort n'est pas pour tout de suite. Naturel, j'entends, car les accidents sont toujours possibles. Un jour, simplement, je serai dévoré comme Élisabeth par le besoin de partir. Mon périple, que je le veuille ou non, me ramènera où tout a commencé pour moi. Je bouclerai la boucle. J'écris ceci parce que j'ai reçu ce matin une lettre d'Oscar, mon frère jumeau qui habite Buenos Aires. Elle annonce sa venue en Europe. Par d'habiles tournures, il se donne du mal pour paraître gai, travestir les raisons de son voyage. Peine perdue, j'ai tout compris. La bougeotte s'est emparée de lui. Son voyage de retour, le dernier, est près de commencer. Ses pérégrinations le ramèneront à R, le village où nous sommes nés. Or, relisant sa lettre, j'ai senti des picotements dans mes jambes. Mon heure approche-t-elle aussi ? Si ça se trouve, Oscar et moi nous retrouverons dans notre maison de famille, dans la chambre de notre mère, jumeaux jusqu'au bout, nous partirons ensemble, là même où nous sommes apparus. Question d'équilibre. Peu après que la femme de mon cousin a donné naissance à son premier enfant, notre grand-père est mort. Peu après que ma belle-sœur a accouché du sien, son oncle s'est éteint. Puis, quand mon amie eut appris qu'elle attendait des jumeaux, son grand-oncle et sa grand-tante ont cassé subitement leur pipe. J'ai compris peu après ce qui apparentait ces événements. Désormais, pour chaque être qui naît, un autre s'éteint dans la même famille. Souvent le plus âgé, mais pas toujours. Et s'il n'y a pas de famille, eh bien, c'est le père ou la mère. Généralement le père. Question d'équilibre. La planète a trouvé ce mécanisme d'autodéfense pour endiguer la surpopulation. On a appelé ce mécanisme le théorème d'équilibre, bien qu'il n'ait rien d'un théorème. Toute vie nouvelle est compensée de sorte que la quantité d'humains reste stable. Elle n'augmentera plus. Éventuellement, elle baissera si les gens cessent de faire des enfants. La compensation fonctionne dans un sens, tel un couperet. Une naissance égale un décès, et non dans l'autre. Un décès n'oblige personne à enfanter de remplaçant. En 2017, il y avait en moyenne 380 000 naissances par jour pour 160 000 décès. Le nombre des naissances a baissé, 250 000. Celui des décès s'est aligné, 250 000, à l'unité près. L'équilibre est préservé, comme dans un jeu à somme nulle. Ce qui trouble le plus l'opinion, c'est que les trépas compensateurs apparaissent au sein des familles. On connaît personnellement celui qui, si nous mettons un enfant au monde, mourra par notre faute. Grand-père, grand-tante, cousin, frère, sœur, époux. Ce serait plus facile à vivre si le phénomène fonctionnait sur une échelle plus vaste, la population mondiale par exemple. Procréer équivaudrait à tuer un inconnu. Ce poids ne serait pas trop lourd pour la conscience. Au lieu qu'ici la nature, sadique, nous fait entrevoir qui pourrait être notre victime. C'est évidemment plus efficace. On ne s'abstiendra pas pour sauver un inconnu, mais on y réfléchit avant de tuer un proche. Les grands-parents, du coup, ne regardent plus leurs petits-enfants comme ceux qui perpétueront la lignée, mais comme des ennemis en puissance. Beaucoup émasculeraient volontiers leurs petits-fils pour se protéger. Dans les familles déchirées, les plus jeunes poulinent dès qu'ils peuvent pour voir périr leurs aînés. On raconte des histoires terribles, comme celle de cet Américain qui a assassiné toute sa famille en engrossant ses voisines. Père d'une vingtaine de gosses, il n'a plus aucun parent. Beaucoup lorgnent son exemple, fascinés par l'idée d'être au début d'une lignée, seul ancêtre d'une bande de nouveau-nés. Heureusement, les choses souvent se passent bien, avec des comportements héroïques. Des grands-parents, prêts au sacrifice, supplient leurs petits-enfants de ne pas renoncer à perpétuer l'espèce. Inversement, ces derniers, par amour pour leurs aînés, s'abstiennent de procréer. Il suffirait d'attendre que les intéressés s'éteignent, direz-vous, mais cela ne ferait que repousser le problème d'une case, en déplaçant la menace sur un autre membre du clan. Les psychanalystes s'inquiètent des répercussions sur les jeunes, qui portent par conception le poids d'un mort. D'une certaine façon, même s'ils n'y sont pour rien, tous sont des assassins. Les plus solides reporteront la culpabilité sur leurs géniteurs, mais beaucoup développeront de terribles complexes. Les amateurs d'humour noir en font leur miel. Si tous ces névrosés se suicident demain, la population mondiale reviendra à un niveau tolérable et la Terre n'aura plus besoin du phénomène. J'ai assisté l'autre jour à des obsèques. C'était pathétique. Le disparu était un vieil ami, âgé de 75 ans. Les siens étaient réunis autour du cercueil, y compris sa petite nièce, enceinte jusqu'au cou. Il était évident pour tout le monde qu'elle était coupable. C'était comme si elle lui avait tiré dessus et qu'elle se promenait à présent avec le fusil en bandoulière. À sa place, je me serais fait toute petite, mais elle, nullement gênée, se faisait remarquer au contraire par ses reniflements sonores et ses larmes qui emportaient son maquillage. Et nul ne voyait apparemment rien à lui reprocher. Le curé même a posé sur l'épaule de cette tueuse un bras compatissant. Après quoi son compagnon l'a rejointe sans vergogne pour caresser son ventre où se nichait l'arme du crime. N'en pouvant supporter davantage, je me suis éclipsée. Nous avons entendu de Zélina Mortel anniversaire et de Bernard Querini L'éternel retour, puis Question d'équilibre.
C'était Écoutez lire. Une émission de Radio Alto.